VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, mais également à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, nuit de panique à Baraka dans le sud Kivu suite aux affrontements entre un groupe rebelle et les forces armées congolaises. Au Sénégal, un chef rebelle menace de rompre la trêve en Casamance. En Libye, arrestation d'une bande accusée de torture de 6 migrants. Dans nos dossiers du jour, le Mali en proie aux attaques djihadistes malgré la présence de plusieurs forces militaires.
Une intervention internationale, française, européenne, onusienne. Et pour autant, la situation n'a pas arrêté de se dégrader, particulièrement ces derniers mois.
Jean-Hervé Jézéquel, directeur adjoint International Crisis Group. Et dans la Minute Éco aussi, la production d'or de la Côte d'Ivoire est à son apogée. Et bien sûr, ne ratez pas les derniers résultats du CHAN dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo au sud Kivu. Une attaque des miliciens Mai Mai Yakutumba Baraka a causé la mort hier soir d'un jeune garçon et fait plusieurs blessés. Les affrontements à l'armes lourdes entre ces rebelles et l'armée congolaise ont entraîné une panique. Les détails avec Ernest Mouero.
Selon la société civile locale à Baraka, pendant ces affrontements sur les lacs Tanganyika, un obus tiré en plein cité de Baraka a entraîné la mort sur le champ d'un garçon de 16 ans et 4 blessés, dont une femme dans un état très critique. Une certaine opinion à Baraka pense que cette attaque de Yakutumba était un acte de sabotage, car elle intervient moins de 10 minutes après le passage du gouverneur de province Claude Nyamugabo dans cette partie du sud Kivu. Tout l'avant-midi de ce 24 janvier, la cité était calme avant que vers 13h heure locale, d'autres crépitements des balles et bombardements déchirent l'atmosphère, cette fois en direction de la presqu'île d'Ubuari, en grande partie contrôlée par Yakutumba. Selon le porte-parole adjoint de l'armée congolaise au sud Kivu, le capitaine Diedoné Kasereka, il s'agit d'une contre-offensive des FARDC qui, depuis 3 jours, multiplie d'autres attaques offensives contre les Mai Mai Yakutumba, particulièrement dans le secteur de Nganja, afin de les y déloger. D'autres sources parlent d'intenses combats dans les localités de Makama, Nemba et Kikonde à une quarantaine des kilomètres de Baraka. Pour l'heure, difficile de confirmer si l'armée régulière a déjà les contrôles de Kazimia, considéré comme le bastion de la rébellion de Yakutumba. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Par ailleurs, 3 personnes, dont un prêtre, ont été enlevées dans l'est de la RDC, où d'autres hommes d'église sont portés disparus depuis 2012. Il s'agit de l'abbé Robert Massinda et 2 ingénieurs agronomes enlevés dans la province du Nord Kivu. L'épiscopat appelle aujourd'hui les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour les retrouver. En Guinée équatoriale, quelques 135 militants de l'opposition ont été inculpés et sont détenus à la prison d'Evina Young, selon leur avocat. Leur arrestation serait liée à des échauffourées avec les forces de l'ordre le 5 novembre à Akonibé, pendant la campagne électorale. Un journaliste tchadien est en garde à vue depuis lundi suite à une plainte de l'ambassade du Soudan au Tchad. Le directeur de publication d'un journal arabophone, Mahamat Issa Bakar, devait être entendu jeudi. Le journal avait rapporté fin décembre que le président soudanais, Omar el-Béchir, aurait conseillé au président turc Recep Tayyip Erdogan de ne pas beaucoup investir au Tchad parce que le pays est instable. Le Haut Conseil de la communication a demandé au journaliste d'Al-Shayed d'apporter les preuves de ces allégations, ce que le journaliste n'aurait pas fait. Au Sénégal, un chef de la rébellion Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, Salif Sadio, a averti que les opérations lancées par l'armée depuis le massacre de 14 personnes pourraient remettre en cause la trêve. Nathalie Barge.
Entouré d'une 50aine d'hommes lourdement armés dans une forêt près de la frontière avec la Gambie, Salif Sadio a déclaré que le mouvement démocratique des forces de Casamance observe depuis 3 ans une trêve unilatérale. Selon ce chef rebelle, la tuerie n'a été qu'un prétexte qui a servi à l'armée sénégalaise pour déclencher des opérations militaires en Casamance. Si les opérations se poursuivent, nous serons obligés de rompre la trêve et cela peut mettre en cause tout le processus de paix, a-t-il ajouté, en référence à la reprise des négociations en octobre sous l'égide de la communauté de Saint-Égidio. Depuis le massacre de 14 hommes dans la forêt de Bayotte, l'armée multiplie les opérations de ratissage. 20 suspects ont été arrêtés, 16 ont été inculpés et 2 rebelles présumés ont été tués. Les premiers accrochages avec les militaires sénégalais depuis des années.
En Libye, un groupe armé loyal au gouvernement d'Union nationale a annoncé ce mercredi l'arrestation d'une bande accusée d'avoir enlevé et torturé des migrants soudanais. Les précisions avec Dili Diko.
Les arrestations ont lieu à Kadaïa, un village au sud de Sirte, à l'est de la capitale Tripoli, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des scènes de torture contre des migrants africains. Les images révèlent des migrants sévèrement brûlés par des ravisseurs qui réclament des rançons à leurs familles. Selon le groupe armé qui les a capturés, il s'agit d'une bande composée de 5 Libyens et d'un Palestinien qui ont brutalisé 8 migrants actuellement soignés dans un hôpital à Sirte. Le groupe armé qui a arrêté les tortionnaires a également combattu l'an dernier les djihadistes de l'État islamique aux côtés des forces du gouvernement d'Union nationale dans la ville de Sirte. La Libye demeure une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants africains qui tentent de rejoindre l'Europe. Tout récemment, des images d'une chaîne de télévision prouvant que certains migrants sont vendus comme des esclaves en Libye avaient déchaîné une vague de colère et des manifestations à travers le monde.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et on reprend Libye. La ville de Benghazi a été le théâtre d'un nouvel attentat. Le bilan, plus de 30 morts dans un double attentat à la voiture piégée qui n'a pas été revendiqué. L'attentat s'est produit hier soir dans l'est du pays. En Afghanistan, au moins 3 personnes ont été tuées dans l'attaque revendiquée par le groupe État islamique contre Save the Children à Jalalabad. L'ONG britannique a suspendu ses opérations dans ce pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Après une certaine confusion, le calme est revenu et les employés qui s'étaient cachés dans la Safe Room, une pièce sécurisée de leur bâtiment, ont tous été évacués sains et saufs. L'attaque à la voiture piégée a duré plus de 7 heures. 2 gardes de l'ONG Save the Children et 1 civil ont été tués, 27 autres blessés. Ataoula Gogiani, porte-parole du gouverneur provincial, a affirmé que 6 assaillants, vêtus d'uniforme militaire, ont mené l'attaque. L'un d'entre eux a péri en déclenchant sa veste explosive, les autres ont été abattus par les forces de sécurité. Le groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque n'a mentionné que 3 martyrs. L'ONG Save the Children a suspendu ses opérations. Le président afghan, Ashraf Ghani, a condamné cette attaque. Le week-end dernier, un assaut contre un grand hôtel de Kaboul a fait plus de 20 morts. Le 31 décembre, un attentat à Jalalabad avait fait 18 morts, mais cette tuerie n'a pas été revendiquée et les talibans ont dit qu'ils ne sont pas les auteurs.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit déterminé à poursuivre l'offensive dans l'enclave syrienne d'Afrin pour en éliminer une milice kurde avant un entretien téléphonique attendu plus tard aujourd'hui avec son homologue américain Donald Trump. Depuis le début samedi de l'attaque sur Afrin, les États-Unis s'étaient contentés d'adresser des appels à la retenue à la Turquie, mais semblent hausser le ton depuis mardi en mettant en garde contre les risques de déstabilisation d'une zone relativement épargnée par le conflit syrien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La production d'or de la Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 2% et a atteint 25 tonnes en 2017. Le gouvernement a précisé que des gisements prometteurs étaient en cours de développement. Le secteur minier dans son ensemble, l'or, bauxite, nickel, cuivre, fer, a rapporté 539 milliards de francs CFA au pays. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un important pays minier d'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne veut renouer avec le Zimbabwe et à soutenir le réengagement des institutions financières internationales auprès du pays. Mais l'Union européenne demande au préalable un programme clair de réformes politiques et économiques. Les relations se sont fortement dégradées dans les années 2000 à la suite du programme controversé de réformes agraires de Robert Mugabe. Aux États-Unis, le Sénat a confirmé Jerome Powell comme nouveau président de la Fed, la Banque centrale américaine. Monsieur Powell était déjà membre du directoire de la Réserve fédérale depuis 5 ans. Il a notamment soutenu la sortie de la politique d'assouplissement monétaire quantitatif initiée après la crise financière et la remontée progressive des taux d'intérêt. Il succède à la démocrate Janet Yellen et devient le 16e président de la puissante Banque centrale, une institution un peu plus que centenaire.
Et c'est l'heure de la page. Et c'est l'heure de la page sport avec Yacouba Ouidraogo. Bonsoir.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Les derniers matchs des phases de poule du CHAN se jouent ce soir, Yacouba.
Tout à fait, Raïssa. 2 matchs au programme dans le groupe D, Burkina Faso, Cameroun et Congo, Angola. Coup d'envoi, 19h, temps universel. Les Diables Rouges du Congo sont déjà qualifiés pour les quarts. Avec 2 victoires en 2 matchs, les Palancas Negras de l'Angola, eux, ils sont presque 1 match nul leur suffirait pour voir les quarts. Le Cameroun est out après 2 défaites en autant de matchs. Les étalons tiennent un mince espoir difficile à réaliser. Il faudra compter sur une défaite de l'Angola et gagner avec 2 buts d'écart face aux Lions indomptables. Pas évident pour les garçons de Drissa Malo Traoré, dit saboteur, qui n'ont pu inscrire le moindre but en 2 rencontres.
Le Nigeria et la Libye se sont qualifiés hier pour les quarts. Que de regrets par contre pour le Rwanda.
Triste pour les Rwandais, scénario cruel pour le Rwanda qui tenait après 90 minutes une qualification pour les quarts. Les Amavubi sont finalement éliminés sur un but de la Libye à la 93e minute. Dans l'autre match, le Nigeria a conforté sa première place qualificative en dominant la Guinée équatoriale 3-1. Chevalier de la Méditerranée et Super Eagles connaîtront leurs adversaires des quarts ce soir à l'issue des matchs Burkina Faso, Cameroun et Congo, Angola.
On parle aussi de la Ligue des Nations en Europe, une compétition très complexe apparemment.
Tout à fait Raïssa, c'est une nouvelle compétition qui remplace les matchs amicaux et offre 4 billets supplémentaires pour l'Euro 2020, en plus des éliminatoires habituels bien sûr. Par ce tournoi, l'UEFA dit vouloir donner plus de relief aux années sans Euro ou sans Coupe du Monde. 55 nations européennes sont reparties dans 4 ligues, divisé en poules de 3 ou 4 équipes qui vont s'affronter pendant une phase de groupe de septembre à novembre 2018.
Bon, il n'y a pas que le CHAN dans la vie, il y a aussi la NBA, le championnat américain de basket. LeBron James bat tous les records.
Oui, Raïssa, la superstar de Cleveland est devenue le 7e joueur de l'histoire à marquer 30 000 points, vous imaginez. LeBron James est aussi le plus jeune joueur de l'histoire à marquer 10 000 points. En saison régulière à 23 ans, il a atteint 20 000 points à 29 ans. Aujourd'hui, LeBron James, à 33 ans, c'est aussi le seul joueur de l'histoire à avoir capté plus de 8 000 rebonds et fait plus de 7 000 passes décisives.
Et mis à part le NBA, qu'est-ce qu'on a au sport aussi?
Écoutez, moi je suis burkinabé, c'est un peu partisan, mais j'attends sérieusement ce match Burkina Faso Cameroun.
Il a lieu quand?
C'est ce soir à 19h et les étalons doivent gagner avec 2 buts d'écart. Et en ce moment, si le Congo bat l'Angola 1-0, ça suffira pour passer pour les quarts de finale. Mais ce n'est pas évident, je le disais tout à l'heure, les étalons ont fait 2 matchs, ils n'ont pas pu inscrire un seul but. Et en plus de cela, l'entraîneur du Congo qui a affronté les étalons au deuxième match, a bien résumé la difficulté que rencontrent les Burkinabés. Ils ont une défense lourde et une attaque peu percutante.
Merci beaucoup. C'était la page sport avec Yacouba Ouedraogo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo, a appelé les Congolais à rester inflexibles, malgré les dernières répressions meurtrières de marche contre le président Joseph Kabila. Un comité laïque de coordination qui a organisé ces manifestations veut absolument obtenir du président Joseph Kabila des garanties qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat en le déclarant publiquement. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles un consultant diplomatique, Henri-Désiré Nzouzi.
Le seuil de tolérance a été largement dépassé. Jusqu'ici, le cardinal, qui avait déjà affiché une attitude de fermeté, s'était néanmoins abstenu d'envenimer la situation. Mais au regard des derniers développements de l'actualité, il ne pouvait pas faire autrement que de sortir de sa réserve et de soutenir d'une certaine manière, au fond, ce mouvement de résistance qui s'est mis en place depuis le 31 décembre dernier.
Est-ce que l'Église ne s'écarte pas de son rôle traditionnel ?
On a souvent reproché à l'Église de ne pas s'impliquer suffisamment dans la résolution des conflits. On se souvient en 2011, notamment lorsque la réélection de Joseph Kabila avait été contestée, que cette même Église avait son propre décompte et finalement une idée sur l'ordre d'arrivée du scrutin. Et puis elle a botté en touche au prétexte qu'il fallait préserver l'Église au milieu du village. On se rend compte après 7 ans que non seulement elle a eu l'occasion de mûrir dans sa réflexion, mais qu'elle a été associée également dans la recherche d'une solution, puisque vous le savez, en 2016, la CENCO s'est impliquée pour que l'on aboutisse à ce fameux accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, cette même Église, à travers la coordination des laïcs, essaye simplement de rappeler l'importance de respecter un accord dont il faut garantir à la fois le respect, mais qui soit de nature à permettre aux Congolais de ce que les élections se tiendront à la date prévue telle que convenue.
Pensez-vous que le dialogue était encore possible parce que la mobilisation continue apparemment ?
Ce que j'entends par voie du dialogue, c'est une réponse autre que la violence. C'est d'accepter par exemple que les gens puissent manifester pour exprimer leur inquiétude, leur préoccupation, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est tout de même de faire en sorte que cet isolement dans lequel semble s'enfermer le régime ne puisse pas avoir d'autres conséquences. Ce qui se passe à l'heure actuelle en RDC, vous avez un désengagement massif au niveau des investissements étrangers, vous avez un délitement des conditions économiques et sociales. Ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, en dehors des images de violence que nous sommes habitués de voir depuis plusieurs semaines maintenant, il y a ce que l'on ne voit pas et qui peut avoir des conséquences potentiellement incalculables pour la RDC.
Henri-Désiré Nzouzi, consultant diplomatique joint à Bruxelles. Au Congo-Brazzaville, les membres de la société civile dénoncent les pratiques de la corruption qui gangrènent l'économie nationale. Ils restent sceptiques suite aux multiples enquêtes lancées par le procureur de la République. Le reportage de Nguelan Goussou à Brazzaville.
La gangrène est profonde et le Congo-Brazzaville reste l'un des pays les mal classés dans la corruption. Certains critiques pensent même que c'est devenu un sport national. Jean-Marie Ibarra de la société civile à Owando, dans le Nord.
Mais c'est courant qu'un directeur départemental qui arrive au Trésor et pour, avoir accès à ses crédits, il doit reverser un pourcentage aux agents du Trésor. C'est courant. Les enseignants sont corruptibles. Et ça, c'est très courant pendant les examens.
Pour l'analyste économique Augustin Benazo, le Congo est noyé dans la corruption et cela entrave son émergence économique.
Le secteur qui subit de plein fouet la corruption, nous avons la douane qui représente à peu près de 37%. Les marchés publics représentent près de 30%. Le système judiciaire représente près de 30%. Le Congo est devenu endémique au niveau Congo. Il y a des conséquences sur le niveau de vie de la population. Les indicateurs sociaux sont toujours très alarmants. Le seuil de la pauvreté est à 50% au Congo.
Récemment, les autorités, dont le président Denis Sassou Nguesso lui-même, se sont attaquées au phénomène en décriant le manque de sanctions dans l'administration publique.
Lamir Ngele, président de la commission de lutte contre la corruption, en fait presque un rapport alarmant.
Courant l'an 2014, un crédit d'un montant de 1 milliard a été alloué pour le traitement antipaludique complet. Malheureusement, cette somme a servi uniquement pour l'achat des solutés des glucosés 5% et des solutés salées de 10% auprès d'une société de la place, sacrifiant ainsi les populations d'un traitement approprié contre le paludisme. En outre, ce marché de gré à gré a été conclu sans contrat préalable et a été payé en totalité avant la fourniture des médicaments, en violation des dispositions réglementaires sur la passation des marchés. Au moment de l'enquête, la société détenait encore curieusement dans ses entrepôts plus de 40% du stock vendu.
La société civile ne cesse de dénoncer des pratiques qui frisent la corruption dans les milieux officiels. Fortuné Mexan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, doute même de l'aboutissement des enquêtes judiciaires et de police enclenchées dans le pays.
La corruption ne va pas s'arrêter parce qu'on a arrêté deux, trois petits poissons. Parce qu'il est un phénomène général qui prend sa racine de la gouvernance électorale. Soyons sérieux, je crois que le procureur ne va toucher qu'au dossier qu'il sera autorisé à toucher. Donc il fera attention au regard de qui est au-dessus de lui.
Le FMI s'est montré sévère envers les autorités, allant jusqu'à demander à clarifier certaines fortunes constituées sur l'activité pétrolière. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un regard sur le premier anniversaire de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Une fête gâchée par un shutdown de 3 jours. Mais un an après, où en sommes-nous? Le président a-t-il changé les États-Unis? Le pays tire-t-il profit des relations diplomatiques et commerciales de l'ère Trump? Quid de l'Afrique après les récents propos jugés désobligeants prêtés au président? Et quels sont ses défis pour l'an 2? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Mali, les attaques meurtrières attribuées à des djihadistes se sont multipliées malgré la présence de plusieurs forces militaires. D'abord, il y a l'armée malienne, puis la MINUSMA, les soldats français de l'opération Barkhane et la récente force du G5 Sahel. Cependant, les djihadistes sont restés très actifs et même étendent leur zone d'activité. Idriss Fall a reçu hier dans nos studios Jean-Hervé Jézékiel, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
On pourrait même rajouter à votre liste les missions européennes, ECAP et UTM, une sorte d'embouteillage sécuritaire au Mali, en tout cas sur le papier. Une intervention internationale, française, européenne, onusienne. Et pour autant, la situation n'a pas arrêté de se dégrader, particulièrement ces derniers mois. A véritablement une faillite, on peut le dire. Il y a des réponses sécuritaires. Je pense qu'elles n'arrivent plus aujourd'hui à endiguer l'extension de la violence armée, qui est celle des groupes djihadistes, mais qui est aussi celle d'autres éléments armés. Je crois qu'il y a eu des succès avec l'opération Serval, qui avait réussi à chasser un certain nombre de groupes hors des villes.
Dispersés.
Chassés aussi, d'une certaine manière. Mais ces groupes-là se sont réadaptés, se réimplantés dans les zones rurales, là où c'est très difficile d'aller les chercher, là où les États ne sont plus, là où les populations sont en manque aussi de services. Et là, les réponses militaires, elles n'arrivent pas à produire de l'effet durable.
Une solution. Donc finalement, le terrorisme a de très beaux jours au Mali.
De très beaux jours, je ne sais pas, parce que ce n'est pas non plus facile pour eux. Au fond, c'est un djihad rural, très loin des villes. Là, ils sont aussi soumis à de forts risques. Face à eux aussi, les États utilisent des groupes pour lutter contre eux. Donc, on est dans une sorte de zone grise et une extension progressive de ces groupes-là, de plus en plus, d'abord vers le centre du Mali, vers la région de Mopti, et puis aujourd'hui vers encore plus au sud, vers la région de Ségou, et on approche au fond de Bamako. Et ce qu'il faudrait, c'est relancer au fond, sans doute, une sorte de solution politique.
Comment ?
D'abord, il y a un projet politique qui a été lancé, c'est le projet de paix intermalien. Il y a 2 ans et demi maintenant à Bamako, malheureusement, ce plan de paix, il a inventé peu de nouvelles solutions, il reprend l'essentiel des points qui avaient été mis en place dans les précédents accords des années 90. Et au fond, voilà, il atteint des limites. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est au fond relancer des dialogues par le bas.
Prend Iyad Agali, c'est le leader historique des Touaregs. Aujourd'hui, on le présente comme étant terroriste. Hamadoun Koufa, qui est un peu du Massina, lui aussi, on le présente comme étant un chef djihadiste. Et il y a un autre qui s'appelle Abou Sahrawi qui se balade vers Menaka par là-bas et fait son shopping au Niger. Est-ce qu'on peut discuter avec des gens comme ça?
Il faut distinguer deux choses. Il y a ces leaders-là. Et autour de ces leaders, il y a toute une série, en fait, d'autres groupes qui les rejoignent par opportunisme, ce qu'on pourrait appeler des chefs de seconde zone. Et je pense que ce serait faux de penser que, par exemple, quelqu'un comme Iyad Agrali est en commande d'un mouvement parfaitement structuré, parfaitement unifié. Non, en fait, il bricole un petit peu avec des groupes sur le terrain. Il essaye d'acheter des allégeances. Il y a de l'argent qui circule, il y a des groupes qui circulent. Et je pense qu'il est possible, en menant des séries de dialogues locaux, de retirer une partie de ces éléments-là. Parler de négociations, je pense que beaucoup de gens encore sont réticents. D'abord, les partenaires internationaux sont réticents, mais même voilà, le président de la République du Mali a plutôt indiqué qu'il n'était pas prêt, pas encore disposé à franchir ce cap-là.
C'était Jean-Hervé Jézéquiel, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group. En Côte d'Ivoire, c'est probablement en avril prochain qu'auront lieu les élections régionales, municipales et sénatoriales. Plusieurs formations politiques menacent de boycotter ces scrutins si la commission électorale indépendante n'est pas réformée. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, fait le point.
L'opposition ivoirienne se dit d'abord surprise par l'annonce de ces élections, une annonce faite par le chef de l'État lors de son traditionnel message de nouvel an à la nation. Daniel Boni-Claveri, présidente de l'URD, l'Union pour la République et la Démocratie.
Je dois vous dire que nous avons été très surpris parce que le président a toujours affirmé que ces élections locales et sénatoriales auraient lieu après la présidentielle de 2020. On nous met devant un espèce de fait accompli en nous disant que elle pourrait même avoir lieu en avril 2018. Et je dois vous dire que cette hâte, cette précipitation suscite en nous beaucoup de doutes et énormément de suspicions.
Il n'y a pas que la date de ces élections qui pose problème. Il y a aussi et surtout la composition de l'organe chargé de la conduite du processus électoral, la commission électorale indépendante. Daniel Boni-Claveri.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande, exige de la Côte d'Ivoire la prise en compte des décisions judiciaires internationales qui font savoir à la Côte d'Ivoire que cette institution n'est pas neutre, que cette institution est déséquilibré au profit du régime et qu'il faut à tout prix la réformer profondément.
Même tonalité chez Ouattara Nyonzié, président du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage.
Cette commission n'est pas indépendante comme on le dit. Vous avez dans cette commission les partis politiques, la coalition au pouvoir est représentée, les partis d'opposition sont représentés, mais vous avez dans cette commission, le président de la République est représenté, le gouvernement est représenté, les présidents d'institutions sont représentés, ça c'est une surreprésentation. Donc elle n'est plus indépendante et puis elle est déséquilibrée.
En novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, saisie par une ONG ivoirienne, avait déclaré que la composition de la CEI viole le droit à l'égalité de tous devant la loi ainsi que le droit d'avoir un organe électoral national indépendant et impartial. La Cour avait demandé à l'État ivoirien de rendre conforme sa loi électorale aux instruments internationaux dont la Charte africaine sur les élections. Une dizaine d'organisations de la société civile viennent d'ailleurs de demander à l'État de se soumettre à cet arrêt. Bamba Sindou, coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, la poésie.
En partant de l'arrêt de la Cour et des missions d'observation, les observations constatées par les organisations de la société civile sur le terrain, dont nous avons décidé de faire une proposition de réforme du cadre légal, c'est-à-dire qu'au niveau du code électoral et également au niveau de l'institution en charge des élections en Côte d'Ivoire qui devait permettre et faciliter l'acceptation de cette commission par l'ensemble des acteurs politiques.
Notamment pour avoir la coalition au pouvoir sont restées infructueuses. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Lionel Gaïma, la mise en onde, Mister Chang à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet. Excellente suite de programme.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.